Ce soir, enquête sur les très puissants réseaux d'influence des États-Unis en France. Les élites sont bien entendu ciblées, les chefs d'entreprise, les responsables politiques, mais aussi des jeunes issus de l'immigration.
On va essayer de découvrir l'Amérique au-delà des stéréotypes que nous on peut avoir ici en France. Et puis, on a une association donc des anciens jeunes ambassadeurs qui est très active, ce qui fait un énorme réseau. C'est quelque chose qui reste après sur le long terme.
Et puis, dans Secret d'Info, nous recevrons Stéphane Aurel, auteur d'un livre choc, Intoxication, qui dévoile l'action d'un lobby industriel, le lobby de la chimie, au sein de la Commission européenne. Enfin, avec vous Anne Brunel, on va s'intéresser aux espions.
Oui, des espions dont les activistes du web veulent faire des lanceurs d'alerte.
Voilà, c'est parti pour 40 minutes d'investigation et de décryptage de l'actualité.
France Inter, Secret d'Info. Mathieu Aron.
5, 4, 3, 2, 1.
Je voulais que mon premier déplacement hors d'Europe soit aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer le président Obama. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Ce n'est pas la dernière. Il y en aura beaucoup d'autres. Et le plus longtemps possible. Mais c'était très important que je puisse réaffirmer ici l'importance que joue la relation entre la France et les États-Unis.
François Hollande à la Maison-Blanche qui célèbre l'amitié franco-américaine. Les liens entre les deux pays sont au beau fixe. En 2010, deux tiers des Français déclaraient aimer les États-Unis. Il n'était qu'un tiers en 2005. Et ce soir, avec vous Jacques Monin, on va explorer la nature de cette relation en s'intéressant au poids des lobbies, car il faut savoir que Washington a mis en place une formidable machine à influencer les élites françaises. C'est ce qu'on appelle le soft power. Alors expliquez-nous. Comment ça se passe ?
Eh bien, ça passe d'abord par deux programmes qui s'apparentent un peu à une opération de charme. Vous allez voir, le premier s'appelle les International Visitors. Il est piloté par l'ambassade des États-Unis à Paris. Et le second s'appelle les Young Leaders. Il est, lui, piloté par une association, la French American Foundation.
Dans les deux cas, le principe est un peu le même.
Oui, l'idée, c'est en fait de repérer des jeunes dont on se dit qu'ils seront les élites françaises de demain en développant l'analyse suivante. Puisqu'ils auront le pouvoir, eh bien, autant nouer des relations très en amont avec eux. À partir de ce postulat, chaque année, les États-Unis sélectionnent une vingtaine de personnes qu'ils invitent à venir séjourner dans leur pays. Pour Pierre Servan-Schreiber, qui est avocat au barreau de New York, les Américains font ainsi en quelque sorte un investissement.
Ils vont chercher les gens qui peuvent avoir une influence un jour par leur réussite. En général, c'est leur réussite professionnelle, etc. Donc, c'est une volonté absolument délibérée. Deux, on voudrait bien vous connaître, d'abord parce que ça peut être intéressant pour nous les États-Unis de voir qui vont être les opinion leaders de demain en France, qui vont être les gens qui vont être dans des positions dans lesquelles ils seront à même de prendre des décisions, parce qu'à ce moment-là, ce sera intéressant de leur rappeler notre passé commun, qu'on a fait connaissance, qu'on est copains, et de faire passer des messages.
Faire passer des messages, mais comment concrètement les États-Unis procèdent ?
Alors tout ça est assez subtil, on va en fait essayer de vous faire découvrir, et donc on espère vous faire aimer les États-Unis à travers toute sorte de rencontre, que ce soit au sommet de l'État, à Washington ou bien chez l'habitant. Tout ça a été très bien pensé, remarque Pascal Dupéra, le président du cercle Jefferson, qui est une amicale des anciens de ce programme.
C'est-à-dire que la grande idée, c'est pas de dire on identifie quelqu'un et on parie sur lui pour, entre guillemets, le manipuler. C'est pas ça. C'est pas un programme de propagande au sens on va vous faire visiter le paradis américain. C'est sur le sujet que vous avez choisi d'aborder, vous allez voir comment les États-Unis traitent le sujet. Il s'appuie après sur un réseau de 40 à 50 000 bénévoles américains qui vous accueillent. Et en fait, donc ça crée tout d'un coup une rencontre non seulement avec les institutions du gouvernement américain, mais ça c'est vraiment la petite partie du programme, mais surtout avec la population américaine. Et avec cette idée très intelligente, ça dépend comment on veut voir le truc, c'est que vous avez plus de difficultés à aller en guerre avec des gens avec qui vous avez déjeuné au dîner.
Et oui, ça paraît simple, mais c'est efficace et il y a une vraie réflexion stratégique derrière. Quelles sont, Jacques, les personnalités ciblées par ces programmes ?
Alors on ratisse large, on cible aussi bien des jeunes loups de la politique, des énarques, que des militaires ou des futurs grands chefs d'entreprise. Cette année, par exemple, vous avez Frédéric Mazzella, qui est le fondateur et PDG de Blablacar, Alexis Morel, le directeur de la stratégie de Thalès, mais il y a aussi des journalistes. Le directeur de la rédaction de Libération, Laurent Geoffrin, par exemple, a été invité par la French American Foundation dans les années 80 et il nous raconte comment ça s'est passé.
Vous avez la moitié de participants américains et la moitié de participants français qui sont des gens de banques, d'entreprises ou d'universités ou de journalisme, pour mon cas. Et en face, c'est pareil. Donc, vous avez en face des futurs responsables américains dont la fondation estime qu'ils vont prendre des responsabilités un jour. Un jour, il y a eu Robert Zoellick qui est devenu le président de la Banque mondiale après. Et puis, il y avait des militaires aussi. Alors, on parlait comme ça des États-Unis et de la politique américaine. Alors, dans un des voyages, il y avait un jeune gouverneur de l'Arkansas qui s'appelait Bill Clinton.
Bill Clinton, effectivement, les Américains ont plutôt du flair. Et l'idée, c'est de détecter les futurs dirigeants bien avant un Jacques Monin qu'il n'accède au pouvoir.
Bah, il suffit de prendre quelques noms pour s'en rendre compte. Alain Juppé, François Fillon, Lionel Jospin, Pierre Moscovici ont fait partie de ces programmes. Idem pour Marisol Touraine, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem, Anne Lauvergeon, NKM et beaucoup d'autres.
Sans compter les actuels ou anciens présidents de la République.
Oui, Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande et même Nicolas Sarkozy y sont passés. Et le cas Sarkozy est d'ailleurs très intéressant. Il a lui été invité à New York en 1980. Or, vous vous souvenez qu'il a ensuite imaginé de supprimer le juge d'instruction, un juge qui n'existe pas aux États-Unis, et il a même rebaptisé son parti Les Républicains, un peu comme le parti de George Bush. Bref, pour Pascal Dupeyra, ce séjour a de toute évidence marqué sa carrière politique.
Le programme dure 3 semaines, il l'a fait en 10 jours, avec une sorte d'explication, ce que les autres ont fait en 3 semaines, je peux le faire en 10 jours. Et en 84, il le fait sur 2 sujets, communication et police. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, visiblement, en 84, identifie les 2 sujets et dit « qu'est-ce que je peux apprendre ?» Et c'est là où il est allé à New York, puisque New York, à l'époque, était en situation extrêmement dégradée. Donc c'est comment on reconquiert un territoire urbain, et notamment la tolérance zéro sur des choses comme ça. Et puis vous avez toute la question des médias. On est en 84, il y a 3 chaînes en France, enfin 4 chaînes avec Canal+. Et vous allez avoir toute la libéralisation du secteur de l'audiovisuel dans les années qui suivent.
Et on se rend compte qu'ensuite, il sera ministre de l'Intérieur et qu'il érigera la communication en méthode politique.
Il a même été ministre de la communication sous le Balladur.
Oui, plutôt parlant cet exemple avec Nicolas Sarkozy. Mais comment font les Américains pour être aussi efficaces dans le choix de leur cible?
Eh bien, ils nous observent tout simplement. Écoutez Ezra Suleiman, qui enseigne à l'université de Princeton et qui, pendant plusieurs années, a été chargé d'identifier ses futures élites. À l'en croire, cette sélection est assez simple à faire.
Je dois avouer, je n'ai pas de mérite spécial, encore que les gens disent « mais comment vous avez fait pour choisir X, Y, etc. ?» Pour la France, ce n'était pas difficile. Même il y a 25-30 ans, vous savez que Juppé allait jouer un rôle. D'ailleurs, de tous les gens qu'on a choisis, je pense qu'il y en avait 1 ou 2 max, qui ont complètement disparu de la scène.
Presque 100% de réussite, bravo pour la sélection. Cela dit, Jacques Monin, envoyer tout ce beau monde en immersion aux États-Unis, ça doit coûter beaucoup d'argent, non?
Bah oui, un voyage de 3 semaines pour une promotion, ça coûte quand même autour de 100 000 dollars.
Et alors, qui finance ces séjours?
Alors, un de ces programmes est financé par le département d'État américain. Là, c'est une dépense stratégique. On considère que c'est nécessaire pour maintenir l'influence des États-Unis en Europe. Quant à l'autre programme, celui de la French American Foundation, il est lui alimenté par des sponsors privés. Et pour recueillir des fonds, chaque année, l'association organise un grand gala auquel on se bouscule à Paris. Il est bon ton d'entretenir de bonnes relations avec les élites américaines. On espère aussi sans doute secrètement décrocher des marchés. Bref, l'affluence ces soirs-là est spectaculaire, remarque le professeur Suleiman.
600 personnes qui viennent, qui achètent des places, des entreprises qui achètent des tables, ça recueille de l'argent. Vous trouvez toutes sortes d'hommes d'affaires qui n'ont rien à voir, peut-être qui ne travaillent même pas avec les États-Unis, mais c'est bien d'y être, peut-être ils vont travailler avec les États-Unis, etc.
On vient donc soigner ses relations et verser son obol. Mais qui trouve-t-on parmi ces donateurs?
Alors vous avez toutes sortes de grands groupes dont on imagine facilement les motivations. Vous avez par exemple les géants du luxe, LVMH, L'Oréal, Dom Pérignon, le grand chef Alain Ducasse, pour qui les États-Unis c'est un marché important. Et vous avez aussi des groupes comme Bolloré, AXAS, Natixis, Air France.
Ça c'était pour le côté français et côté américain.
On peut citer les 2 géants de l'informatique par exemple, qui sont notamment IBM et évidemment Google.
Alors, autre aspect de la stratégie d'influence mise en place par le gouvernement américain, plus surprenant d'ailleurs, son ambassade est aussi très active dans les banlieues françaises.
Oui, depuis le début des années 2000, elle a mis en place un programme comparable à ceux d'ailleurs dont on vient de parler, mais qui s'appelle lui les jeunes ambassadeurs. Seulement, à la différence des autres, il s'adresse exclusivement à des jeunes issus de l'immigration. Alors, pour faire simple, il a démarré alors que les États-Unis entraient en guerre en Irak et alors qu'il leur fallait tout faire pour montrer qu'ils n'étaient pas les ennemis des musulmans. C'est ce que nous explique le sociologue Vincent Gesser.
Ce qui a motivé les États-Unis, c'est la gestion du post 11 septembre, mais en même temps, la situation française, les affaires de voile, etc., qui fait que les États-Unis ont voulu se poser, je ne dis pas qu'ils l'ont réussi, un peu en protecteur des musulmans français. Nous, on aime les musulmans, d'autant plus qu'ils participent avec nous au combat pour la démocratie, à la lutte contre le terrorisme, et on les protège même face à leurs propres autorités quand ces autorités ont l'air de les discriminer. Donc c'est dans ce contexte post-11 septembre de volonté de redorer leur image auprès des musulmans du monde entier que les États-Unis ont ciblé ces populations-là.
It's essential. Now to an international story that developed overnight in France. Riots erupted in a Paris suburb.
Et puis, en 2005, arrive la révolte des banlieues en France, et ça, c'est un choc pour les Américains.
Oui, les images sur CNN sont terribles, on s'en souvient, et ça les renforce dans leur analyse. Ils considèrent que l'État français a failli en termes d'intégration, et ça les inquiète parce que la France, c'est une zone stratégique qui sert de tampon, quelque part, entre l'Est et le Sud, traditionnellement plus hostile aux États-Unis. Donc ils se disent, si la France ne fait pas le boulot, eh bien nous, on va le faire nous-mêmes.
Et les Américains vont donc arriver dans les banlieues françaises, autour de Paris, mais pas simplement, hein, Jacques Monin.
Non, ils vont aussi investir Marseille, Lyon, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Toulouse. Écoutez Zahra Boutlélis, elle est étudiante, elle habite Goussainville dans le Val d'Oise. Elle a été invitée aux États-Unis l'année dernière et voilà comment on lui a présenté le programme.
La première raison qu'on nous avance, c'est qu'on va essayer de découvrir l'Amérique au-delà des stéréotypes que nous, on peut avoir ici en France. Et c'est ce qu'on voit aussi à la formation préalable, en fait. On donne tous les préjugés qu'on a sur les États-Unis et au retour, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de préjugés qui ne sont plus là. On a une vision différente. Et puis, on a une association donc, des anciens jeunes ambassadeurs qui est très active, ce qui fait un énorme réseau. C'est quelque chose qui reste après sur le long terme.
Un énorme réseau, dit cette jeune femme, que les États-Unis ne cessent d'entretenir.
Oui, l'ambassade et les consulats s'appuient aussi sur un tissu associatif qui organise régulièrement des formations, des rencontres sportives ou culturelles pour ces jeunes. Bref, l'oncle Sam ne les lâche pas. On cultive en quelque sorte son investissement.
Et ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir que ces jeunes ambassadeurs, eh bien, ils obtiennent des résultats plutôt spectaculaires.
Oui, alors ne nous y trompons pas, l'ambassade recrute des jeunes très brillants qui auraient peut-être réussi même sans ces programmes, mais il est vrai que leur taux de réussite est assez éloquent. Écoutez Jennifer Rassamimanana, la conseillère culturelle de l'ambassade des États-Unis à Paris.
Un des premiers jeunes ambassadeurs, je pense qu'il faisait partie de la première promotion, termine maintenant sa formation d'astronaute. Donc, nous en sommes très fiers. 98% de ces jeunes ont fait des études supérieures, dont un tiers qui ont été à des grandes écoles. Et il y en a beaucoup parmi ces jeunes qui sont les premiers dans leur famille à faire des études secondaires. Bien sûr, on voudrait que les gens nous comprennent et on est convaincus que quand ils nous connaissent et ils nous comprennent, ils nous découvrent, ils finissent par nous aimer.
Ils finissent par nous aimer. Bon, belle déclaration. Cela dit Jacques, l'amour, ça n'explique pas tout.
Bien sûr que non, la guerre en Irak est terminée. Et l'analyse qui prime aujourd'hui, c'est surtout en fait de se dire que cette jeunesse qui est issue de l'immigration, c'est celle qui sera aux commandes de la France de demain. Et donc, c'est de celle-là qu'il faut se faire aimer. Et c'est vrai que ça fonctionne. Écoutez par exemple Majid El-Jaroudi, il dirige lui l'ADIV. C'est une agence qui aide les PME françaises à trouver des marchés dans les quartiers prioritaires. Il a lui-même été invité à la Maison Blanche et il est bluffé par ce que font les Américains.
Ils font quelque chose qui est très simple à faire, hein, que nos élus et nos responsables politiques pourraient faire, hein, c'est aller sur le terrain, se faire connaître. On les connaît, les acteurs qui se bougent. Il se trouve que nos dirigeants, malheureusement, sont souvent issus des mêmes formations. Ils ont souvent fini leurs études, rentré dans un cabinet ministériel. On n'a pas le temps d'aller sur le terrain. Les Américains, eux, ils ont des personnels du staff qui est missionné, qui fait ça, qui va sur le terrain, qui va rencontrer les acteurs et puis qui va soutenir des initiatives. Alors c'est très surprenant que ce soit l'ambassade des États-Unis qui le fasse, mais d'une manière générale, c'est plutôt très positif qu'une la première puissance économique mondiale, quasiment, hein, s'intéresse à ces acteurs-là qui sont les futurs leaders de notre pays.
Et j'ajoute que ce n'est pas une banque française qui finance l'agence de Majid El-Jaroudi, mais une banque américaine, en l'occurrence JP Morgan.
Voilà donc comment le soft power fonctionne à travers ses différents programmes auprès des élites comme dans les quartiers populaires. Mais l'influence américaine passe aussi par d'autres canaux et notamment celui des grands cabinets d'avocats d'affaires.
Alors dans ce domaine, on a assisté à la mise en place d'un réseau d'une puissance formidable. En 30 ans, Paris est devenue la première place en Europe pour les grands cabinets d'avocats d'affaires américains. On en trouve 8 parmi les 10 plus gros de la capitale et il y a plus de cabinets en fait américains à Paris qu'à Londres. Mais cette domination, qui ne concerne d'ailleurs pas que les avocats, n'est pas arrivée par hasard. Là encore, c'est le résultat d'un processus très maîtrisé, explique l'avocat d'affaires Pierre Servan-Schreiber.
Les structures américaines, le sillage du plan Marshall, s'installe dans les années 50-60 en France avec des toutes petites structures qui sont parfois guère plus qu'un bureau de représentation. Et ils regardent. Ils regardent le marché, ils regardent où sont les clients possibles, où sont les marchés possibles et où sont les personnes qui pourraient être intéressantes pour elles. Et petit à petit, ils vont se développer à partir de là. Vous regardez aujourd'hui, il reste quelques structures purement, j'allais dire, nationales. Dans la banque d'affaires, c'est Rothschild et Lazard. Dans les cabinets d'avocats d'affaires, il y en a d'autres. Et puis, la grosse majorité du volume et de la valeur des transactions qui sont faites par ces sociétés-là le sont par des sociétés dont le centre de décision est aux États-Unis, mais dont les acteurs sont français, des gens comme moi.
Les grands cabinets américains embauchent donc des Français et là aussi, le recrutement ne doit rien au hasard.
Ce qui les intéresse, c'est bien sûr de faire des affaires, mais aussi du lobbying pour le compte de leurs clients. Et pour cela, il leur faut créer des réseaux qui aient leurs entrées dans les plus hautes sphères de l'État. C'est pour ça qu'ils vont débaucher en fait dans les milieux politiques où on a en général des carnets d'adresses très fournis. Écoutez Étienne Drouard, lui-même est avocat d'affaires et il a vu comment les sociétés américaines recrutent à la sortie des cabinets ministériels français.
On va se fournir à la sortie des ministères, parce que ces carrières sont courtes lorsqu'on est un jeune énarque, polytechnicien, ingénieur des ponts. Quand on a fait les 4, 5, 6 ans de prestige dans un cabinet, aux échéances électorales qui sont les nôtres, tous les 5 ans, et qu'on en sort, il faut bien se trouver un job. On n'a pas envie de passer une carrière rémunérée dans les grilles de la fonction publique. Et c'est là qu'on peut devenir très intéressant pour un groupement économique qui pourra mettre les moyens d'acheter un carnet d'adresses. Et c'est ça le soft power. Ça se passe dans absolument tous les cabinets.
Et ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Quand vous savez que vous avez une chance d'atterrir dans un grand cabinet qui vous payera peut-être 10 fois votre salaire, on peut comprendre que vous soyez réceptif aux arguments qui sont avancés par votre potentiel futur employeur.
Alors, il n'y a pas que les cabinets d'avocats. Les Américains, en réalité, embauchent des personnalités influentes dans tous les secteurs.
Oui, prenez la banque. David Azema, qui dirigeait l'agence des participations de l'État, donc les investissements français dans les entreprises dites stratégiques, il a rejoint Merrill Lynch, qui est une filiale de la Bank of America. Prenez le milieu des entreprises. Clara Guémard, qui a été directrice de cabinet ministériel et puis ambassadrice, a rejoint General Electric. Dans tous ces cas, on cherche effectivement une compétence, mais aussi une capacité d'influence.
Bon, alors on a bien compris comment cette stratégie d'influence se développe, mais la question, Jacques Monin, c'est de savoir si c'est efficace. Bref, est-ce que cela a des conséquences sur les décisions politiques prises en France?
Bon, alors c'est vrai que par nature, le soft power, c'est évidemment difficilement quantifiable. Mais on peut quand même donner quelques exemples. D'abord, l'omniprésence des cabinets américains a peu à peu imposé l'anglais dans les contrats, y compris d'ailleurs devant l'AMF, l'autorité des marchés financiers française. Les normes juridiques américaines sont maintenant, elles, prépondérantes devant les juridictions d'arbitrage, par exemple. Mais au-delà, c'est toute une vision de la société qui ferait son chemin. C'est ce que pense Claude Revel, l'ex-patronne de la délégation à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Elle a écrit un essai, La France, un pays sous influence, et elle estime que le soft power, ça se traduit déjà très concrètement.
On a de plus en plus de propositions qui parfois aboutissent, de législations qui sont directement dérivées des États-Unis, par exemple le plea bargaining, le plaidé coupable. On a donc une influence juridique déjà en matière de droit. Et le droit, c'est très important puisque c'est quand même le cadre des affaires, c'est l'infrastructure des affaires. Bon. Je donne un autre exemple, l'idée d'ouverture des données. Ça devient le mantra, ça devient l'idéologie. On ouvre. Bon. Eh bien, les Américains, les consultants américains qui développent ces idées-là, aux États-Unis, ils le font de manière très maîtrisée. Nous, on a un vrai problème de porosité intellectuelle, si vous voulez, parce qu'on n'a pas assez théorisé ces armes économiques comme l'ont fait nos concurrents américains.
Oui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'évidemment, derrière tout ça, derrière cette influence, il y a des enjeux énormes. On ne fait pas du lobbying pour rien. L'ouverture des données, par exemple, dont vient de nous parler Claude Revel, c'est un gigantesque marché potentiel pour Google qui pourra en faire commerce. Google a donc tout intérêt à pousser pour une libéralisation totale du secteur.
Le soft power, on l'a compris, c'est avant tout une arme économique et c'est d'ailleurs pour ça que cette notion fait école dans d'autres pays.
Oui, les Chinois payent maintenant à prix d'or des chercheurs français pour qu'ils viennent travailler chez eux. Ces 10 dernières années, d'ailleurs, la Chine a ouvert 300 instituts linguistiques dans le monde pour étendre son influence. Les Brésiliens aussi mettent en place des programmes de soft power. Et là, le paradoxe, c'est que nous imitons les Américains dans la plupart des domaines, mais pas dans celui-là. L'ENA donne bien des cours de soft power aux étrangers, mais pas aux étudiants français. Tout se passe un peu dans la tête en fait, de nos dirigeants, comme si notre histoire, notre culture, la haute couture, nos parfums suffisaient encore à faire rayonner l'image de notre pays. Bon, vu ce qu'on vient d'entendre, on peut quand même en douter.
Merci beaucoup Jacques Monin pour cette enquête éclairante sur les lobbies américains à l'œuvre en France. Une enquête bien évidemment à retrouver sur notre site franceinter.fr, en texte et en vidéo, et sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à d'autres opérations de lobbying. Dans le domaine de la santé, cette fois-ci, on reçoit Stéphane Aurel, l'auteur d'Intoxication.
France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Bonjour Stéphane Aurel.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une enquête qui est vraiment passionnante. Ça s'appelle Intoxication, c'est aux éditions La Découverte. Alors durant plusieurs années, vous vous êtes plongé dans les arcanes de la Commission européenne à Bruxelles et vous nous racontez en détail comment les lobbies de la chimie, des pesticides ou de l'industrie plastique agissent pour retarder une réglementation en matière de perturbateurs endocriniens. Alors déjà, pour que l'on comprenne bien, vous nous rappelez d'un mot ce que sont ces perturbateurs ?
Malheureusement, les scientifiques ne les ont pas appelés des schmourfs. Ça aurait été plus facile de dire des schmourfs. Là, comme il y a le mot endocrinien, il faut expliquer ce que ça veut dire. Endocrinien, ça veut dire hormonal. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qu'on trouve dans les objets de consommation courante, dans vos lunettes, votre chemise, peut-être les semelles de vos chaussures, mais aussi dans les objets que les enfants utilisent, les plastiques, les pesticides, et qui ont la capacité d'interagir avec le système hormonal des êtres vivants, que ce soit des animaux ou les humains. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 36 en biologie pour comprendre que interagir avec le système hormonal, ce n'est pas forcément une très bonne idée pour la santé publique.
Alors justement, les effets sur la santé, ils commencent aujourd'hui à être bien documentés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très très préoccupant.
Les scientifiques se sonnent l'alarme depuis un sacré moment sur un certain nombre de maladies qui sont, en gros, on pourrait mettre dans le sac toutes les maladies modernes. C'est-à-dire qu'il y a la fertilité humaine qui est un problème aujourd'hui. Les cancers.
Avec une baisse de qualité du sperme qui est spectaculaire ces dernières années.
Dans certains pays, le recours à la procréation assistée atteint des taux assez spectaculaires, quoi. Mais il y a aussi les cancers hormonodépendants, seins, testicules, prostate, qui sont en explosion dans les pays riches. Le problème de développement du cerveau. L'obésité, le diabète, tout ça, c'est des troubles qui sont chez l'animal de laboratoire totalement liés aux perturbateurs endocriniens. Chez les humains, c'est beaucoup plus compliqué parce que on peut pas faire d'expérience d'un point de vue éthique, ça se fait pas. D'exposer des enfants à des phtalates qu'on trouve dans les plastiques ou à du bisphénol A qu'on trouvait avant dans les contenants alimentaires pour voir l'effet que ça peut avoir sur sa santé 20 ans, 30 ans plus tard. On n'a pas le temps d'attendre en fait.
Pour revenir sur les conséquences sur la fertilité, parce que c'est des chiffres là aussi qui sont relativement peu connus, je crois que c'est un couple sur 6 ou un couple sur 7 qui aurait recours à des méthodes artificielles pour avoir des enfants en fait aujourd'hui à cause de ces problèmes de fertilité.
Mais on sait que, par exemple, c'est à la 7e semaine de grossesse que la différenciation sexuelle se fait. C'est-à-dire que la testostérone se déclenche et fabrique un garçon, ou elle ne se déclenche pas et fabriquera une fille. si le taux de testostérone n'est pas suffisant à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences sur l'appareil génital du petit garçon, avec des problèmes à la naissance, par exemple la non-descente des testicules dans les bourses, une hypospadiase qui est une malformation de l'urètre. Et tout ça, ce sont des facteurs de risque pour plus tard un cancer des testicules et des problèmes de fertilité. Les substances chimiques qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, par exemple les phtalates, sont capables de bloquer l'action des hormones masculines. Donc si ça arrive à ces moments cruciaux, à ce qu'on appelle des fenêtres de vulnérabilité, ça peut avoir des conséquences énormes. Et l'an dernier, une étude a estimé pour l'Union européenne par an le coût à 157 milliards d'euros, le coût de ces maladies. Ben, ça a un coût sanitaire, mais ça a un coût pour la société.
Alors, avec tout ce que vous nous dites, et suite à ces études scientifiques, on se dit que face à un tel danger, forcément, les États vont agir, forcément, l'Europe va agir. Et d'ailleurs, et c'est le début de votre livre, on s'aperçoit qu'aux alentours de l'année 2009, l'Europe se décide à agir et envisage d'adopter une réglementation pour 2013. Je crois que je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
C'est le début en fait d'une énorme bataille de lobbying que j'essaye de suivre un peu en live depuis et que je suivrai jusqu'à la fin, parce que pour l'instant c'est une opération de lobbying qui est en train de réussir. Au premier chef, c'est le lobby de la chimie qui représente toute l'industrie chimique européenne, y compris les multinationales extrêmement puissantes comme BASF ou Bayer. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec les concentrations qu'il y a eu dans les multinationales, une multinationale qui fabrique de la chimie, des ingrédients, du liquide de frein, peut aussi fabriquer des ingrédients pour du dentifrice ou des pesticides ou des OGM. Et donc il y a des intérêts qui se recoupent dans ces grosses firmes, Bayer, Syngenta, BASF, et je cite ces trois en particulier parce qu'elles se sont particulièrement démarquées dans le lobbying contre cette réglementation.
Vous citez des chiffres qui sont très édifiants dans le livre. Environ 25 000 fonctionnaires à Bruxelles, 25 000 fonctionnaires européens. Combien de lobbyistes ?
À peu près un lobbyiste par fonctionnaire.
Entre 25 et 30 000.
Les groupes d'experts, en fait, à la Commission européenne, qui écrivent les brouillons de la loi européenne, sont des représentants de l'industrie.
Ces lobbies, ils agissent sur le discours scientifique. C'est-à-dire que, véritablement, ils font en sorte qu'il y ait un doute scientifique. Alors que, quand on regarde, il n'y a pas de doute. Mais eux, ils essayent d'en créer un.
La fabrication de la controverse, c'est devenu une spécialité de l'industrie. C'est une boîte à outils qui a été inventée par l'industrie du tabac, en premier lieu, dans les années 50, quand on a fait le lien entre le cancer du poumon et la cigarette. Il y a eu la mise au point d'une stratégie de relations publiques et de construction d'études. Ils ont payé des scientifiques pour réaliser des études qui pointaient dans l'autre direction, en fait. Et ce qu'on appelle la manufacture du doute, parce qu'il y a un document de l'industrie du tabac de cette époque-là, où il est clairement écrit « Notre produit, c'est le doute ». C'est devenu un business. Un secteur du lobbying s'occupe de fabriquer de la fausse controverse et de la matière scientifique qui nourrit un doute. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le changement climatique. C'est ce qui se passe avec les perturbateurs endocriniens. Il y a aussi cette question qui se pose sur les gaz de schiste, sur les OGM. C'est une boîte à outils qui sert à tous les industriels, qui est devenue un classique. Et que pourtant, les pouvoirs publics, qui ne sont pas formés à l'influence, ne reconnaissent pas quand ça arrive.
Le doute scientifique, ça se monnaie aujourd'hui.
Le problème de ces stratégies de lobbying, c'est que le doute, l'incertitude, c'est le moteur de la science. D'utiliser cette incertitude en la transformant en doute, en vulgaire doute, c'est retourner la science contre elle-même. C'est ça qui est extrêmement pervers, c'est qu'il est très difficile, quand on ne connaît pas un dossier, de faire la différence, on va dire, entre la véritable incertitude scientifique et un doute complètement construit par l'industrie.
Autre action de ces lobbies, par exemple, c'est changer le vocabulaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, on vous propose une autre définition. On ne va plus parler de perturbateur endocrinien, mais on va parler de modulateur. Comme ça, l'opinion publique, on imagine, va moins s'inquiéter. C'est bien de ça dont il s'agit.
Il y a une manipulation très orwellienne du langage. Cette référence à 1984, le roman de George Orwell, elle est très fréquente quand on travaille sur ces questions-là, parce que changer les mots, c'est aussi essayer de manipuler la réalité. On désigne la réalité en la mettant en mots, et de proposer de changer le terme perturbateur endocrinien par modulateur endocrinien. En anglais, on dit endocrine disruptor. C'est un terme extrêmement fort, beaucoup plus fort que perturbateur. Ils ont essayé d'imposer ce truc-là très tôt, en fait. Mais comme ils n'y sont pas arrivés, ils essayent d'utiliser un autre terme qui est les substances actives sur le système endocrinien. Il y a une sorte de contournement pour cacher, quelque part, la réalité de ces effets sur la santé.
Une sorte de glissement sémantique pour aller vers des termes plus doux, en réalité, quoi.
Oui, c'est cette espèce d'aseptisation, c'est l'élément de langage du lobbying scientifique.
Ces industriels, ils ont quand même un argument, c'est de dire, oh là là, si vous prenez les mesures que vous préconisez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tant de centaines de milliers de personnes vont se retrouver au chômage, il va y avoir des baisses de rendement, des baisses de la croissance très importantes, donc faites attention à ce que vous faites. Est-ce que ce discours, on peut l'entendre quelque part ou pas? Ou alors est-ce qu'on se dit, bon, les intérêts de santé doivent primer avant tout?
Mais il y a toujours le chantage à l'emploi, c'est un classique, on l'a au niveau national aussi, dès qu'il se passe quelque chose. Par exemple, il y a eu, la France a interdit le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, dans les contenants alimentaires à compter du 1er janvier 2015. Le chantage à l'emploi a été énorme en France pour empêcher cette réglementation. Le fait est que les études montrent ces prédictions totalement apocalyptiques de l'industrie ne se réalisent jamais. On peut dire, oui, il va falloir que je licencie. Il y a eu des chiffres comme ça au moment du règlement REACH, qui est le grand règlement sur l'industrie, sur les produits chimiques, pardon, qui date de 2007, où l'industrie a sorti de son chapeau des chiffres complètement hallucinants, où on allait perdre 2% de PIB chaque année. Évidemment, ça n'est pas arrivé.
En conclusion, des mesures très fermes devaient être prises en 2013. Aujourd'hui, on est fin 2015. On en est où ?
On est un peu au milieu de nulle part, sans être au milieu de nulle part. Mais la décision finale ne sera pas prise avant 2017, ce qui fait quand même un retard de 4 ans pour protéger la santé publique d'un danger imminent. C'est quand même un peu long. Et surtout, le processus qui est en cours à Bruxelles, c'est un processus dans lequel la puissance publique ne défend pas l'intégrité de la décision qu'elle devrait prendre. C'est-à-dire qu'il y a eu une capture de cette décision par les industriels. La Commission européenne, elle accorde plus d'attention à ce que dit le fabricant de liquide de frein que la société civile. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déficit démocratique européen.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Aurel pour cette enquête édifiante et inquiétante sur ces lobbies de l'industrie à l'action en Europe. Intoxication, c'est le titre de votre livre. Et c'est donc aux éditions La Découverte. Allez, tout de suite, on retrouve Anne Brunel et ses Légendes du Web.
Secret d'info sur France Inter.
Et ce soir, Anne Brunel, vous nous parlez d'un appel au boycott d'un genre très particulier.
Oui, on va commencer par un jeu de devinettes. Si je vous dis Intel Exit, ça vous dit quoi ?
Exit comme sortie ?
Bravo ! Dans le mille, vous avez entendu parler il y a quelques mois du Grexit, lorsque certains plaidaient pour la sortie de la Grèce de l'Union européenne. Eh bien, voici que vient d'arriver dans la liste des néologismes internationaux ce nouveau terme, Intel Exit, de l'anglais intelligence, qui se dit en français renseignement ou espionnage, et Exit, donc la sortie.
Alors, Intel Exit, ça signifie quoi précisément ?
Eh bien, en clair, c'est le nom d'une campagne de désobéissance civile qui dit tout simplement « espion, démission ». Mais attention, un espion aujourd'hui, c'est quoi ?
Bond. James Bond.
Non, l'espion d'aujourd'hui, ce n'est plus un Don Juan dont le smoking blanc n'apparaît même pas froissé après qu'il a ôté sa combinaison de plongée. Ce n'est plus seulement un athlète amateur de vodka martini aussi à l'aise avec des jetons de casino que face au système d'allumage d'un missile nucléaire. Non, car le plus célèbre espion aujourd'hui, c'est plutôt lui.
Please, Fano, welcome Edward Snowden.
Il a 29 ans, il est plutôt gringalet et dans les multiples conférences auxquelles il participe, il n'est présent que virtuellement sur grand écran. Edward Snowden est informaticien et il représente aujourd'hui la figure de l'espion contemporain. C'est lui le modèle de la campagne Intel Exit en tant que premier à avoir fait le choix de prendre la porte de sortie. Souvenez-vous, c'était en juin 2013.
Quand vous avez un accès privilégié, comme par exemple administrateur système d'une agence d'espionnage, vous êtes exposé à une grande quantité d'informations sensibles, et ce à beaucoup plus large échelle que la moyenne des autres employés. Et à cause de ça, vous voyez des choses qui peuvent se révéler perturbantes. Avec le temps, cette conscience d'aller dans le mauvais sens se consolide et vous sentez que vous devez en parler. Plus vous en parlez, plus on vous ignore, plus on vous répond pourtant que ce n'est pas un problème. Jusqu'au moment où vous réalisez, finalement, que ces choses doivent être déterminées par le public et pas seulement par quelqu'un qui vous est supérieur au gouvernement.
Si j'ai bien compris, Anne, l'idée de cette campagne, c'est de dire aux espions, eh bien, faites comme Snowden,
partez.
C'est exactement ça. Démissionnez et devenez un lanceur d'alerte.
Et alors, ils agissent comment, ces militants?
Eh bien, le collectif d'activistes allemands, français, pakistanais qui est à l'origine de cette action de désobéissance civile a mis au point un véritable kit de propagande. Avec d'abord une conférence de presse à Berlin, le 30 septembre dernier, dont nombre d'extraits sont visibles sur les plateformes de partage vidéo. Et puis, un film qui tourne aussi depuis sur YouTube, sur des sites, des blogs, et se trouve relayé par la presse en ligne.
Certaines personnes ont déjà pris la décision de partir. D'autres y songent tous les jours. Intellexit aide les gens à se libérer de la communauté du renseignement et à construire une nouvelle vie.
Efficace hein, comme film.
Oui, ça dure moins de 3 minutes. On croirait une super bande-annonce. Et alors, parallèlement à ça, les activistes ont aussi distribué des tracts à travers les États-Unis, aux abords des sites où sont implantés des services dépendant des agences de renseignement, par exemple dans le Maryland, où se trouve le centre de cybercommandement de la NSA.
Et ces militants n'interviennent pas qu'aux États-Unis, ils sont aussi en Europe.
Et oui, sur le territoire allemand, par exemple, le collectif est allé jusqu'à envoyer un drone survoler une base militaire américaine, le Dagger Complex, situé à Darmstadt, pour y larguer des centaines de tracts à l'intention des 1100 employés de la base. Et comme toute action militante est aujourd'hui participative, Intellexit dispose de sa plateforme de crowdfunding pour lever les fonds nécessaires à leur financement. Car s'il s'agit bien d'un geste politique pour appeler à la vigilance démocratique dans un monde de surveillance croissante, cette action est avant tout à prendre comme un geste d'artiste engagé dans la cité. Et l'adhésion à leur performance artistique se mesure aussi au soutien financier qui leur est accordé. Bref, ce sont les dadaïstes d'aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup Anne Brunel, la dadaïste de Secret d'Info. Autre histoire d'espionnage, et là on va revenir complètement dans le réel. Trois journalistes, deux du Point et un appartenant au Canard Enchaîné, ont été condamnés, et c'est une grande première, pour avoir porté atteinte, je cite, « aux intérêts fondamentaux de la nation ». Leur grand tort, avoir révélé dans un livre l'identité d'un agent secret. Or, s'ils l'ont fait, c'était pourtant pour souligner les dérives d'un service de renseignement. Qu'importe, la justice les a donc condamnés. Et le message envoyé à la presse est très clair. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans le monde des services secrets. Voilà, on ne va pas faire plus de commentaires. C'est la fin de Secret d'Info. On remercie beaucoup notre réalisateur Christophe Imbert et Rebecca de Nantes. Et à la technique Philippe Duclos, Alexandre Chenet et Jean-Noël Vélan. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec D'ici d'ailleurs. Et Zoé Varier eh bien, va vous raconter ce soir l'épopée de Nour qui a fui l'Afghanistan à l'âge de 15 ans et qui a mis plusieurs années avant d'arriver en France.